Dans ma bulle, le podcast BD, d'avoir à lire.
Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD avec avoir à lire. Et aujourd'hui, on ouvre une page d'histoire avec la biographie en BD d'une actrice exceptionnelle qui fut une des grandes stars d'Hollywood avant de consacrer son énergie à l'UNICEF. Je veux parler d'Audrey Hepburn. Et derrière cette biographie qui vient de paraître chez Glénat, il y a un homme qu'on imagine passionné et dont vous avez sans doute lu plusieurs albums et séries, de Jean-Paul Paul au centre du Nowhere, en passant par le Passe-Muraille, Un million d'éléphants, Klimt ou bien encore Mickey et les mille pattes. Il est accompagné par Agnès Innocente au dessin, Jean-Luc Cornette. Bonjour.
Bonjour.
Alors ma première question, c'est évidemment l'idée de cet album. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire une biographie sur Audrey Hepburn?
Bah, Audrey Hepburn elle-même, en fait, simplement.
C'est déjà une bonne raison.
Oui, bah, c'est quelqu'un que j'ai toujours vraiment admiré, apprécié. Depuis très longtemps, j'avais envie de faire un livre autour d'elle. Bon, elle est née à Bruxelles, donc je passe en tant que Bruxellois régulièrement devant sa maison natale. Voilà, c'était pas faire une biographie spécifiquement que j'avais envie de faire, j'avais envie de parler d'elle, parce que c'est quelqu'un qui me touche, qui peut vraiment m'émouvoir. Bon, des projets comme ça, j'en ai beaucoup qui traînent dans un coin de mon cerveau, qui attendent le bon moment. Il y a 2 ans, j'en ai parlé à mon éditeur Franck Marguin aux éditions Glénat, et lui a créé une collection qui parle de cinéma. Donc, ça me semblait évident de faire ça chez Glénat avec lui. Quand j'ai réfléchi, que raconter, parce que je n'avais pas spécialement donc envie de faire une biographie, parce que c'est long, peut avoir des moments moins passionnants. J'ai pas, comme j'ai pu le faire pour d'autres bandes dessinées, par exemple, pour Frida Kahlo, j'ai fait une BD sur Frida Kahlo, et là j'ai choisi 4 années qui me parlaient vraiment. Pour Audrey Hepburn, en fait, vu qu'elle a son début de vie, enfin son enfance, son adolescence qui est touchée par la guerre et donc par la faim, par la famine, et qu'en fin de vie, elle s'occupe des enfants qui meurent de faim, elle veut pas, elle veut lutter contre ce que elle a vécu comme souffrance. Je trouvais que ça fait une super boucle dans sa vie. Donc, si je voulais parler du début et de la fin, ben, je parlais de toute sa vie. Donc, c'est comme ça que j'ai décidé quand même de faire une biographie complète.
Dans les premiers épisodes un petit peu marquants, elle naît en 1929, il y a évidemment la guerre, où on la voit adolescente suivre des cours de danse, et puis aussi entrer dans la résistance. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette période-là qui a été fondamentale pour elle?
Oui, ben, en fait. Un peu avant ça, ses parents l'avaient mise à l'école en Angleterre, donc elle ne vivait pas avec ses parents. Quand la guerre a débuté, et que l'Angleterre et l'Allemagne sont entrés en guerre, ils ont cru que la Hollande, où ils habitaient, enfin les Pays-Bas, allait, en tant que pays neutre, n'allait pas connaître la guerre. Donc, ils ont rapatrié Audrey en Hollande, et ça n'a pas duré très longtemps. L'Allemagne a commencé à envahir les Pays-Bas, à ce moment-là, le père avait déjà disparu de la vie d'Audrey Hepburn, et il restait sa mère, ses 2 demi-frères, mais qui étaient plus âgés, et qui donc, eux, sont partis. Un dans la résistance, l'autre en travail forcé. Et ils ont perdu tout ce qu'ils possédaient, parce qu'ils étaient très riches. La mère était baronne. Donc, en très peu de temps, Audrey et sa mère sont passés d'une vie de nantis à devoir survivre tant bien que mal, comme beaucoup de gens pendant la guerre. Et on le voit aujourd'hui aussi encore ce qui se passe pour l'instant. Elles ont rebondi à deux. De tout ce que j'ai trouvé, de toutes mes lectures, elles sont quand même toujours positives l'une comme l'autre. Donc elles continuent à vivre comme elles peuvent. Audrey est passionnée de danse, elle continue à faire de la danse, mais c'est quelqu'un qui a, je pense, en elle un vrai sentiment de justice, et elle a toujours fait preuve de ça. Et donc, elle aide un peu comme elle peut la résistance, mais c'est encore une petite fille, une préado. Donc, l'anecdote que j'ai mise dans le livre et qui est celle qui est reprise dans beaucoup de ses biographies, c'est qu'elle passait des messages pour la résistance dans ses chaussettes et elle se baladait à vélo. Et les Allemands ne se méfiaient pas du tout d'une gamine à vélo.
C'est une période intéressante parce que au sortir de la guerre, c'est là que commence un petit peu sa vie d'actrice par du théâtre d'abord, et puis ensuite
Oui.
par le cinéma.
Oui, enfin, le tout premier, la toute première chose qu'elle voulait faire, et c'était vraiment de devenir danseuse, de devenir ballerine. Et puis, la guerre a fait qu'elle a dû arrêter quand même les cours intensifs. La malnutrition a un peu malmené son corps. Et quand sa mère dit, on va vivre à Londres. Comme ça, là, tu auras une bonne école de ballet, parce que sa mère se met vraiment au service de l'ambition de sa fille. Elle y va, et là, elle se rend compte qu'elle n'a pas le niveau par rapport aux autres filles, et elle est obligée d'abandonner. Donc, c'est une suite d'événements entre sa volonté propre et un peu le hasard de la vie qu'ont fait qu'elle en est arrivée là où elle est. Donc, elle a fait un peu de théâtre, elle a fait des photos de mode. Quand elle était encore en Hollande, elle a fait un premier film là où elle avait été repérée dans son école de danse. Et les choses comme ça s'enchaînent jusqu'au moment où elle fait des tout petits rôles dans des films anglais, dans 4-5 films anglais. Et parfois, il y en a un, c'est 18 secondes où elle apparaît, mais elle est très contente, elle continue, et elle se retrouve dans un film français qui est tourné à Monte-Carlo et avec la bande de Ray Ventura, et c'est tourné dans un grand hôtel donc à Monte-Carlo, et c'est là où l'écrivain Gigi passe 6 mois de sa vie. Elle est à la fin de sa vie, et elle la voit sur le tournage, et elle se dit, j'ai mon actrice pour jouer dans ma pièce Gigi à Broadway, vu qu'elle parle anglais. Et c'est comme ça qu'à 20 ans, 22 ans, Audrey Hepburn se retrouve déjà à New York.
Le premier grand film, c'est 1953, c'est Vacances romaines, aux côtés de Gregory Peck.
Oui.
Je ne vais pas faire tous les films, mais quel type
Non.
d'actrice était Audrey Hepburn pour vous? Comment est-ce que vous définiriez l'actrice qu'elle était?
Mais moi, je l'ai. C'est ça qui me touche beaucoup chez elle, c'est que je lui trouve je la trouve très naturelle. Bon, elle en fait parfois un peu beaucoup, mais on a l'impression qu'elle était comme ça dans la vie, c'est-à-dire très spontanée, très pétillante, bondissante, je dirais même. Et c'est ça que je trouve très, très, très touchant. Donc, je crois qu'elle avait ça en elle. Qu'elle ne devait pas avoir énormément de difficultés. Elle apprenait ses textes, et puis sur le plateau, elle devenait vraiment le personnage. Et donc, elle jouait comme ça avec cette fraîcheur, ce regard. Quand il y a un gros plan sur son visage, sur son sourire, sur ses yeux, ben, je pense que le spectateur, il est heureux, il y a quelque chose qui se partage réellement. Donc, voilà, moi je la vois comme ça. Bon, après, en étudiant sa vie, et comme je l'ai mis dans le livre, on voit que même entre les films, sa vie n'est pas aussi positive tout le temps, aussi pétillante. Elle vit des drames ou des malheurs personnels. Mais donc elle, je pense qu'elle considérait que au cinéma, c'était pas du tout elle. Mais nous, sans la connaître, on se dit c'est elle.
Elle a évolué, il y a 23 ans de carrière, hein, des dizaines de films. Son
Oui.
jeu a évolué au fur et à mesure.
Ben, je ne sais pas si son jeu a évolué, mais ses rôles ont évolué. Donc, pendant très longtemps, elle a joué espèce de femme-enfant, de très, très jeune femme, jeune adulte, dans des histoires où il y a toujours une romance. Et puis, c'était comme ça qu'on tournait à Hollywood à cette époque-là, c'est-à-dire que ses amoureux potentiels étaient eux des acteurs confirmés, donc la plupart avaient 30 ans de plus qu'elle. Et c'est vrai que quand on revoit sa filmographie, ce que j'ai fait évidemment en écrivant, c'est de revoir tous les films, vu d'aujourd'hui, c'est quand même un peu choquant de voir que on a l'impression que c'est une gamine, et elle est, par exemple, dans Sabrina, qui est un film absolument génial, cela dit, de Billy Wilder. Son cœur se partage entre William Holden et Humphrey Bogart, quoi, qui sont déjà presque des vieux hommes. Donc, comment s'appelle, j'allais dire, Drôle de Frimousse, voilà. De Stanley Donen, elle est avec, j'ai un trou de mémoire, enfin bref, avec un acteur vraiment vieux, quoi. Et donc, c'est tout son début de carrière, c'est comme ça. Donc, il y a des très bons films là-dedans, quand même, des chefs-d'œuvre. Et puis, à un moment, elle commence à avoir des rôles différents, et ça lui permet d'agrandir sa palette de jeux. Donc, il y a, entre autres, il y a un film qui s'appelle Au risque de se perdre, où elle est infirmière et bonne sœur. Et elle part au Congo belge à l'époque. Donc là, c'est déjà plus un rôle de romance, même s'il y en a un petit peu. Et puis, elle commence à avoir des vrais rôles d'adulte. Et puis, arrive, pour moi, ce qui est le chef-d'œuvre absolu, c'est Déjeuner, Breakfast à Tiffany's, donc Diamant sur canapé en français, et où elle joue là une fille aussi qui, en apparence, est toujours joyeuse et pétillante. Et en fait, on comprend en sous-texte qu'elle a vécu une enfance très très dure, qu'elle est call girl, et que en fait, l'apparence qu'elle donne, c'est pour elle se crée un personnage de femme joyeuse et sophistiquée pour éviter elle-même d'être confrontée à sa vie ratée. Et ça, ce sont des très beaux rôles.
Qu'est-ce qui fait qu'à 38 ans, elle s'arrête pour se consacrer notamment à l'UNICEF? C'est jeune que pour terminer une carrière d'acteur, d'actrice pour le coup.
Alors les âges, je sais plus trop, parce
C'est
qu'elle y revient
67.
quand même. Elle y revient quand même épisodiquement, hein, jusqu'à son tout dernier film qui était Always de Spielberg, où là elle est déjà plus âgée, elle a les cheveux gris. Mais c'est vrai qu'elle met vraiment sa carrière sous le côté. Mais avant même de se consacrer à l'UNICEF, elle a une envie qui est la plus forte de toutes, c'est d'être mariée, d'avoir un beau mariage et d'avoir des enfants. Et ça va être compliqué, surtout d'avoir des enfants. Elle va vivre un certain nombre de fausses couches. Elle n'y arrivera pas, en fait, au départ. Et puis, voilà, elle s'est mariée deux fois. Ses mariages n'ont pas tenu. Et en fait, elle est pour nous une image de liberté, et en fait, quand on étudie sa vie privée, elle rêve que du patriarcat. Elle rêve de faire les petits plats pour un mari qui va travailler et de rester à la maison. Ce qu'elle peut se permettre à un moment, parce qu'elle a gagné beaucoup d'argent, et elle a une très très belle villa en Suisse. Et donc, quand elle peut, elle s'occupe des enfants, elle va les conduire à l'école, elle se lève plus tôt. que ses deux maris, enfin l'un puis l'autre, pour préparer les petits déjeuners, elle promène les chiens, elle s'occupe du jardin, et en fait, c'est ça qu'elle aime faire.
Putain, c'est aussi une grande amoureuse, hein. Vous nous présentez un petit peu ces histoires d'amour, hein.
Oui. Mais c'est marrant parce que beaucoup de personnes qui l'ont lu ont dit, ah, elle a quand même eu beaucoup d'histoires dans sa vie. Et en fait, moi, j'avais pas cette vision-là. Elle a eu vraiment deux maris plus un troisième avec qui elle s'est pas mariée, mais le dernier homme de sa vie qui est moins connu que les deux autres, qui est Robert Wolders, qui est un acteur hollandais. Et puis après, elle a eu une histoire avec William Holden et puis quelques histoires entre son deuxième et troisième mari, si je puis dire, sur des tournages, mais pas des grandes histoires. Elle a vraiment été, mais quand elle est amoureuse, je crois qu'elle l'était vraiment, enfin, comme n'importe qui, mais elle voulait que ça dure, et puis ça ne durait pas, et puis il y a eu des problèmes. Mel Ferrer, qui est donc son premier mari, ça a été un grand amour. Et puis après des années, il y a eu, à mon avis, une sorte de jalousie dans le couple, parce que. Lui, il était déjà un grand acteur avant qu'elle débute, sauf que c'était pas un tout grand acteur, c'était un bon acteur, voilà. Et lui, il est resté au même niveau, si je puis dire. Et elle est devenue une star, une icône mondiale. Et puis, à un moment, lui, il était Monsieur Audrey Hepburn. C'était pas elle qui était Madame Mel Ferrer, c'était lui qui était Monsieur Audrey Hepburn. Et je pense que ce qu'il en a été blessé réellement.
Ma dernière question, c'est qu'est-ce qui reste aujourd'hui d'Audrey Hepburn en 2024? Qu'est-ce qu'on retient d'elle?
Ben, je pense que, enfin, je ne sais pas ce qu'on retient d'elle, parce que tout le monde ne la connaît pas. Ce que tout le monde connaît d'elle, c'est des posters, ou des un peu comme Marilyn, qui a vu les films, tous les films de Marilyn, alors qu'on connaît un visage, on connaît des photos, on connaît Audrey Hepburn habillée avec des grands gants noirs et des lunettes noires comme dans Breakfast at Tiffany's, ou on la connaît sur la Vespa dans Vacances romaines. Après, si on la connaît un peu mieux, ben oui, on retient quelques très très bons films dans lesquels elle est formidable. Et puis, si on la connaît encore mieux, on retient la femme de cœur qu'elle a été, et les dizaines et dizaines de voyages qu'elle a fait dans le monde entier pour aller accompagner des médecins de l'UNICEF pour apporter de l'aide aux enfants qui souffraient. Donc ça fait beaucoup beaucoup de choses, quoi.
Merci beaucoup, Jean-Luc Cornette.
De rien.
Hein, on va conseiller parce que c'était passionnant cette biographie d'Audrey Hepburn, actrice à redécouvrir et à prolonger le plaisir. C'est donc chez Glénat. Le titre,
Je
c'est.
peux
Ouais, bien sûr.
rajouter un truc, parce qu'on n'a vraiment pas parlé du dessin, et je suis
Ah oui,
moi
c'est vrai. Bien
enchanté
sûr.
par le destin d'Agnese Innocente, qui a déjà fait plusieurs BD en Italie, mais c'est la vraie première en France. Je l'ai cherché longtemps, hein, pour trouver, et je cherchais quelqu'un qui pouvait rendre justement ces expressions de visage, ces émotions et les mouvements même, comment Audrey Hepburn pouvait bouger. Et je suis tellement ravi du résultat que je veux le dire. Voilà.
Ouais, je partage, le résultat est vraiment superbe. Merci beaucoup, Jean-Luc. Merci à vous qui nous
Merci à
avez
vous.
écoutés. Vous avez compris, on a aimé cette BD. Allez la lire. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD. Bonne journée.
Dans ma bulle, le podcast BD, d'avoir à lire.